L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Bâtard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.
Bonsoir mes magnifiques pépites et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission L'Ayurveda Sourire. C'est un vrai bonheur pour moi de vous retrouver encore ce soir pour vous faire découvrir des terrains encore inconnus de l'Ayurveda. Nous allons aujourd'hui parcourir le corps, parcourir nos points énergétiques, toutes nos lignes de vie à l'intérieur de nous. Nous allons voir que le corps est plus qu'un territoire, c'est un univers. Et nous allons en fait nous intéresser à une science qui est également peu connue encore en France et qui pourtant est très importante dans la pratique de l'Ayurveda. Nous allons parler des points marma. Alors les points marma, en fait, c'est vraiment une technique qu'on utilise en Ayurveda depuis toujours, qui est vraiment essentielle et qui apporte des touches énergétiques très puissantes, qui est un vrai vecteur en fait de rétablissement, d'équilibre sur toutes les sphères de la personne, pas seulement au niveau du corps physique, mais aussi au niveau des autres corps, donc des corps subtils, et même le corps peut-être astral. Nous allons en tout cas en découvrir un peu plus ce soir avec mon invité. Mon invité est une consoeur, elle pratique elle aussi l'Ayurveda. Elle est également enseignante, elle est réflexologue et kinésiologue. C'est une personne qui est beaucoup dans le ressenti du corps, qui est dans la transmission. Elle est là vraiment en fait pour faire une lecture de qui vous êtes et vous accompagner avec son ressenti. Bonsoir Sandra Hoche.
Bonsoir Gwenaëlle.
Comment ça va?
Super bien.
Bon, alors, je suis vraiment ravie, en tout cas, de partager ce moment avec toi pour pouvoir parler des points marma. Les points marma, c'est un petit peu mystérieux, en fait. Hein. C'est quelque chose qu'on connaît un peu mal en Occident. Souvent, on les associe, d'ailleurs, en fait, aux points d'acupuncture en médecine chinoise, mais on va en parler. Alors qu'en fait, il y a vraiment toute une anatomie énergétique du corps. Et c'est quelque chose, en fait, de très complexe et de très ancien, de très profond, en fait, dans la tradition ayurvédique. Est-ce que tu pourrais déjà pour commencer en fait nous expliquer qu'est-ce que les points marma, qu'est-ce que c'est en fait?
Alors les points marma, ce sont avant tout des points vitaux. Certains parlent de points réflexes et en effet ils peuvent être utilisés comme des points réflexes, mais avant tout ce sont des points vitaux parce qu'ils sont liés à un art martial qui s'appelle le Kalaripayat. Et à la base ces points étaient utilisés vraiment comme un moyen de combat. Donc, on allait frapper dans ces points-là pour avoir beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de létalité, donc créer des dégâts chez l'ennemi. Et puis, du coup, dans cette pratique, il était nécessaire pour les guerriers de renforcer ces points pour être plus résistants au combat, de savoir les soigner en cas de blessure. Et puis, de là, est née une médecine des points marma, et qui se pratique effectivement depuis très très longtemps. On en retrouve des traces écrites depuis le Rig Veda pour ce qui est de l'aspect Kalaripayat, puis dans la Charakasamhita, etc., pour dans les tous les livres fondateurs de l'Ayurveda pour le traitement thérapeutique.
Et qu'est-ce que ça veut dire en fait marma? Enfin, c'est une signification particulière?
Oui, alors ce qu'il y a, c'est que dans la traduction du sanskrit, suivant les courants, les écoles, on va donner des traductions qui diffèrent légèrement. Moi, je l'ai appris dans la définition, dans la traduction, secret. Parce que c'était une pratique, effectivement, qui était secrète et qu'on dévoilait qu'à des initiés. Maintenant, il y en a qui le traduisent par cible, cœur, par ceux qui tuent. Et dans l'origine, c'était un peu tout ça. Enfin, moi, je l'ai appris en tant que secret.
D'accord. Donc oui, il y a quelque chose vraiment, enfin, de l'ordre de l'initiation quand même dans la transmission, parce qu'en fait, justement, c'est ce que tu disais, il y a un degré de létalité.
Oui, tout à fait. Il y a même une classification par rapport à ça. Oui.
Ok, donc du coup, enfin, l'apprentissage, en fait, j'imagine, enfin, des points marma en France n'est peut-être pas déjà le même qu'en Inde, et peut-être qu'il y a aussi en fait cette vision un peu comme le Guru Kulam, enfin, on est vraiment en fait de maître à disciple.
Alors ça, oui, effectivement, c'est très vrai en Inde, encore aujourd'hui auprès de certains maîtres. J'ai rencontré des personnes qui ont été formées de cette manière-là et ont décrit qu'effectivement, on regarde le maître pratiquer, il se passe au moins 6 mois avant que on les laisse toucher le corps. Enfin, ça doit différer d'un maître à l'autre, mais enfin, il y a vraiment cette notion d'initiation. Et j'ai rencontré des personnes qui avaient eu cet enseignement-là. Ils avaient des pratiques un peu différentes. Par exemple, ils utilisent des combinaisons de points, alors que c'est pas forcément le cas ici. Du coup, ça a un impact potentiel peut-être différent ou plus fort qui fait que c'est réservé vraiment à l'aspect initiation. En France, c'est totalement différent parce qu'on l'utilise dans le cadre d'une médecine douce. Ça s'inscrit plutôt dans la notion d'homéostasie. Donc, pour rappel, l'homéostasie, c'est la capacité du corps à maintenir, à créer, restaurer toutes ses fonctions. Donc, on va pas avoir, parce que déjà, on l'utilise dans le soin et pas dans le combat, donc ça change tout. On va pas avoir d'enjeux qui nécessitent une telle initiation. En revanche, on va insister, mais ça, il me semble que c'est dans tous les courants de médecine douce, surtout quand on a une pratique physique et surtout énergétique, ça nécessite un certain alignement de la part du thérapeute, parce qu'autant un mauvais geste sur un marma, c'est pas forcément très grave. La capacité d'homéostasie du corps est tellement forte qu'il faudrait appliquer des gestes de la mauvaise façon, à répétition, pour que vraiment ça crée un déséquilibre. Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec cette opinion. Enfin, moi, c'est dans ce que je ressens. En revanche, un thérapeute qui est mal aligné, qui est dans des émotions négatives, etc., là, pour moi, je ressens que ça aurait beaucoup plus d'impact. Donc, le travail, là, n'est pas tant de recevoir une initiation très longue à propos des marmas directement, mais ça va être plutôt un travail personnel de la part du thérapeute. Mais ça, voilà, encore une fois, il me semble que c'est dans toutes les approches énergétiques que c'est nécessaire.
Oui, non, c'est certain, parce que c'est vrai que, en fait, c'est absolument fondamental d'être aligné. Enfin, déjà, on est en contact avec l'autre, et c'est, enfin, je dirais que, au-delà des pratiques énergétiques, c'est dans toutes les pratiques d'accompagnement. Puisque finalement, en fait, il y a quand même une connexion avec la personne qu'on accompagne. Donc, c'est important, et c'est la responsabilité aussi de l'accompagnant que d'être aligné, que d'être au clair, en fait, aussi avec ce qu'il fait, avec sa pratique, d'être complètement là, présent. Et c'est ce qui permet aussi, probablement, justement, tu le sauras mieux que moi, mais avec les points marma, en fait, d'aller vraiment dans le sens, de quelque chose de positif et d'un rétablissement, en fait, énergétique du corps.
Tout à fait, tout à fait. Quand on touche le corps de l'autre, rien que quand on parle, on a un échange d'informations qui va bien au-delà de ce qu'on conscientise. Et donc, oui, cet aspect-là est très important, effectivement.
Et alors, la marmathérapie, du coup, donc c'est vraiment, enfin, une pratique qui est corporelle. Donc moi, c'est une pratique, par exemple, que je ne pratique pas parce que je suis pas dans tout ce qui est corporel, mais que je trouve vraiment fascinante. Qu'est-ce que ça peut apporter concrètement, en fait? À quoi ça sert?
Alors, déjà, il faut savoir qu'un point marma est un carrefour, est un point de rencontre entre les différents tissus du corps et des nadis, des canaux subtils. Donc, ça va avoir une répercussion possible sur tous ces aspects-là, c'est-à-dire aussi bien sur le physique, le physiologique, sur les fameux doshas, on en parlera après. Ça va avoir un impact de régulation très puissant sur les aspects subtils et énergétiques. On peut avoir un effet sur les émotions. Donc, ça va vraiment rassembler et toucher à toutes les parties de l'être.
Oui, parce que c'est important de le rappeler, en fait, que c'est pas que physique. Encore une fois, l'Ayurveda, c'est une médecine holistique. Donc, en fait, la technique des points marma, en fait, c'est vraiment sur toutes les sphères de l'être, aussi bien le corps que l'esprit ou que l'âme, du coup.
Oui, oui, vraiment. Et autant, ça se passe déjà au niveau de la Bianga, quand on pratique en conscience, donc le massage ayurvédique le plus connu. Mais disons qu'avec les points marma, on va dans une profondeur qui va bien au-delà, et donc l'effet ressenti directement par la personne qui reçoit est déjà beaucoup plus puissant, et puis les résultats aussi. Donc aussi bien il peut y avoir des petites réactions d'élimination que vraiment une libération qui est beaucoup plus profonde et immédiatement ressentie. Donc on va travailler autant sur des douleurs physiques, que sur des problèmes physiologiques, que sur des organes, que sur la prévention de la santé aussi, simplement pour l'entretien de sa santé. parce qu'on considère que si quelque chose ne circule pas bien dans un endroit, que ce soit physique ou subtil, ça va ensuite créer des accumulations de toxines, d'énergie stagnante, etc., et que ça va conduire nécessairement à l'état de pathologie. Alors que cet aspect préventif, de pouvoir nettoyer, remettre en circulation constamment tout ce qui peut circuler dans le corps, ça va avoir vraiment des effets dans le temps. On ne vieillit pas de la même façon quand on s'entretient de cette manière-là, avec cette conscience.
Oui, parce que du coup, tu parles de circulation énergétique et ça, c'est quand même très important, c'est quand même fondamental. En fait, en Ayurveda, la circulation du prana, c'est avec le prana, en fait, qu'on utilise, enfin, c'est le prana qu'on utilise d'ailleurs pour la régénération du corps, pour le bon fonctionnement du corps, pour rétablir l'équilibre, maintenir l'harmonie, le bon fonctionnement justement des doshas. Le prana, c'est absolument fondamental. Donc, j'imagine donc que les points marma, c'est aussi refaire circuler le prana de façon homogène, fluide, et adapté en tout cas en fonction de la personne au niveau de tous ses corps.
Tout à fait. Donc on va autant avoir un impact et un besoin de faire circuler tout ce qui est physique, tous les fluides du corps, etc., que l'aspect énergétique. Et là, effectivement, ça va avoir des répercussions au-delà du corps physique. Mmh. Alors l'aspect des corps subtils dans l'Ayurveda, on va considérer, je suppose que vous l'avez déjà abordé plusieurs fois et que les personnes qui écoutent ont quelques connaissances en la matière. On considère dans l'Ayurveda qu'on a différents corps, dont le corps physique, Anamaya Kosha, c'est-à-dire le corps fait de nourriture. Puis on a le corps énergétique, Pranamaya Kosha, c'est-à-dire le corps fait de prana, d'énergie. Et puis ensuite, on va encore aller dans d'autres corps. Mais enfin, sur ce corps d'énergie, on va avoir des petits vortex, les chakras, qui vont permettre de capter le prana, de l'acheminer jusqu'au corps physique via les nadis, ces canaux subtils. Et ensuite, à l'intérieur du corps, les nadis encore vont acheminer le prana dans toutes les parties. Alors, on connaît en général, par exemple, ceux qui pratiquent le yoga connaissent souvent les trois nadis principaux, celui le long de la colonne vertébrale, Sushumna, et puis Ida et Pingala, les côtés gauche et droite. Mais voilà, on dit qu'on a 14 nadis principaux, donc ça va amener l'énergie de centre énergétique en centre énergétique, puis dans les organes d'essence, puis enfin dans les membres. Mais on considère qu'il y en a énormément plus, ça, ce sont uniquement les principaux, on va dire. Donc, les marmas étant sur des points de rencontre entre ces nadis et des tissus du corps, ça permet effectivement de faciliter le passage et la circulation de cette énergie. Parce que en général, quand il y a un blocage qui se fait sur le corps, par exemple une contracture musculaire, c'est quasiment systématiquement dans un marma que ça se situe. C'est très logique en fait, puisque c'est là qu'il y a un carrefour entre les différents tissus. Le fait de du coup masser ce marma va permettre de redonner de la souplesse, de la circulation dans ces tissus et laisser circuler à nouveau les fluides et l'énergie.
Oui, et du coup, c'est vrai, ça c'est un truc que tu m'avais expliqué que je trouvais complètement fou, parce qu'en réalité, finalement, quand on a des blocages en fait récurrents, des choses qui reviennent et que c'est tout le temps au même endroit, ça vaudrait vraiment le coup en fait d'aller faire un soin en fait un des points marma pour pouvoir débloquer les choses.
Et non seulement ça vaut le coup, mais en plus quand on a déjà reçu un massage qui comprend le massage des marmas, on a du mal à aller recevoir d'autres massages, très honnêtement, parce qu'il y a un effet en profondeur, et puis c'est magique, parce qu'à chaque fois qu'on va rentrer dans ces points-là, vous avez des personnes qui vous disent « Oh là là, vous avez trouvé exactement là où j'ai mal ». Mais il n'y a rien de mystérieux, pour tout le monde, on a cette cartographie-là des tissus, et même si les morphologies varient, et que par rapport à une carte, les points peuvent être un peu plus bas, un peu plus haut, enfin pour tout le monde, c'est sur les mêmes carrefours de tissus.
Mais justement, parce que tu me disais aussi qu'il y a plusieurs cartes hein, des points marma. Alors, comment ça se passe? Et puis, il y a combien de points marma? Parce que on parle souvent, en fait, on va revenir d'ailleurs sur cette histoire de marma et acupuncture pour faire la différence, mais on parle souvent, en fait, des points d'acupuncture, mais les points marma, c'est incroyable le nombre, en fait. Enfin, je sais pas, donc, combien il y en a et
quels sont les cartes? Je ne sais pas combien il y a de points d'acupuncture pour comparer, mais je pense qu'il y a plus de points d'acupuncture. Dans l'enseignement que j'ai reçu, on nous parlait de 107 points marma. Souvent, on entend 108 et on aime bien le nombre 108 parce que c'est très symbolique. C'est le nombre de répétitions qu'on préconise pour ceux qui pratiquent la récitation des mantras. Voilà, donc on va souvent entendre 107 ou 108, mais en fait, il y a des marmas secondaires. Il y a des cartes qui les intègrent beaucoup plus, par exemple la carte du docteur Ladd, on contient plus, alors je sais plus si c'est 113 ou plus, mais voilà, donc le nombre, pour moi, et après il y en a encore une fois qui pourraient ne pas être d'accord, mais c'est pas quelque chose de figé, et contrairement, il me semble, à la médecine chinoise, on va retrouver la même carte dans au sein de toutes les écoles, de tous les praticiens, nous, parfois, suivant l'enseignement, ça peut varier. Et d'ailleurs, il suffit de taper carte.marma sur Internet pour se rendre compte rapidement qu'il y a des petites différences dans les cartes, même si les points principaux reviennent. Voilà, on trouve ces différences-là. Alors, moi, ça ne m'intéresse absolument pas de disserter sur quelle est la bonne carte, etc. Ce que j'aime, c'est l'expérience, c'est le ressenti. Et du coup, pendant les formations, on n'est pas du tout en train de débattre de quelle est la bonne carte. On va apprendre à entrer et à sentir les points. Et la personne qui reçoit sent quand on est dessus ou pas, ainsi que nous, quand on développe notre sensibilité, on va très bien sentir que la main va se caler naturellement à cet endroit-là. Alors, la différence avec des points d'acupuncture, il me semble que les points d'acupuncture, bien que sur le corps physique, se situent uniquement sur des trajets subtils. Voilà, c'est ce que j'ai pu en comprendre en tout cas, je suis pas spécialiste. Alors que les points marma, encore une fois, eux sont plutôt des points vitaux et donc vont être un carrefour de tissus réels, physiologiques. Et donc c'est beaucoup plus facile à trouver, c'est beaucoup plus facile à apprendre, c'est beaucoup plus intuitif. Il y a quelque chose de très logique dans les points marma.
Mais ils sont situés où les points marma du coup ?
Alors il y en a sur le corps entier, on va en avoir énormément sur le crâne. On va en avoir dans les membres, jusque sur les pieds et les mains, on va en avoir sur le buste, sur le dos. Donc, ils sont vraiment répartis un peu de partout. Chaque articulation est un point marma. Et puis ensuite, on va être sur les différents trajets de rencontre des muscles, des tendons. Alors, ce serait difficile de décrire à l'oral, mais ils sont vraiment répartis sur toute la surface du corps. Après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de comprendre que même si la plupart du temps, un blocage se fait naturellement dans un point marma, si on reçoit une blessure, si on se fait une déchirure, une contracture musculaire dans un endroit qui n'est pas à la base un point marma, ça devient un point marma. Pourquoi ? Parce que du coup, ça devient un point sensible. Donc, il va être utile à la fois pour frapper dans le cadre du Kalariprayat, dans le cadre du combat, que pour soigner, pour que tout circule à nouveau dans les tissus. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas un nombre totalement fixe.
Oui, c'est évolutif en fait. Ça dépend de l'histoire de chacun finalement et de ce qui lui arrive.
Oui, des blocages. On va dire que c'est la carte de son propre corps, voilà. Ouais. Mais voilà, généralement, je le répète encore une fois, c'est quasiment toujours dans un point existant que les choses se bloquent.
Et moi, j'avais appris, en fait, j'avais lu, enfin, dans les textes, que c'était important de ne pas couper sur un point marma, par exemple, s'il y avait justement une opération, une chirurgie, de ne pas couper sur un point marma. Mais du coup, c'est un peu difficile parce que d'une personne à l'autre, on ne peut pas vraiment savoir. C'est ce que tu dis, c'est très évolutif. Il peut y avoir plein de points marma différents.
Alors, bon, il n'y aura pas forcément plein de points marma en plus. Hein, c'est vraiment dans le cadre où il y a eu justement une cicatrice ou une blessure. Et ça, en général, c'est quelque chose de visible extérieurement. Ensuite, je pense que la nécessité d'éviter de couper dans ces points-là, peut-être que ça s'inscrivait plus dans la tradition ayurvédique où la chirurgie de l'époque n'avait pas forcément les moyens. Et effectivement, si on allait ouvrir dans un point marma qui est une artère, forcément, ça va énormément saigner et il va y avoir un risque de mort très fort. Mais ça paraît assez logique. Je pense que dans les moyens qu'on a actuellement, c'est naturellement, je pense, sans que les chirurgiens aient une connaissance particulière de ces points, je ne pense pas qu'ils incisent dans l'insertion du tendon ou dans une artère. Donc, je pense que naturellement, on devrait passer un petit peu à côté de ces problèmes-là. Et ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est que au niveau de la circulation de l'énergie, effectivement, quand il y a eu une blessure, souvent on m'a posé ces questions-là par rapport à un piercing. Mm-hmm. Une personne qui avait un piercing dans le nombril, etc. Et du coup, oui, effectivement, ça a pu entraver quelque chose, mais je pense que c'est surtout au début. C'est-à-dire qu'au moment où on va recevoir, où on va faire ce piercing, il va y avoir un temps pour que le corps se régule. Mais il y a un tel pouvoir d'homéostasie dans le corps que ça va se réguler et que l'énergie, c'est comme de l'eau. L'énergie, elle va chercher à passer, elle va chercher à contourner, elle va s'infiltrer. Alors, comme pour moi, tout ça, ça reste du concept. Ce que j'aime aussi, c'est tester, parce que j'ai la chance d'avoir l'outil de la kinésiologie, qui est un outil formidable, pour avoir directement la réponse du corps de la personne. Et donc, je me suis amusée à tester quand on me posait la question. Et en général, ça ne me posait pas de soucis. Donc, le corps avait en fait compensé, avait rééquilibré. En revanche, souvent, les montres posaient plus de soucis. Alors que là, ce n'est pas une blessure, ce n'est pas une incision, mais le contact du quartz, de la pile contre le pouls. Parce que dans l'Ayurveda, le pouls, on connaît bien cette pratique. Il y a des informations que l'on prend, mais il y a peut-être peu de gens qui savent qu'il y a aussi des informations que l'on donne par le pouls. Et donc, si on garde une montre en permanence sur le poignet, voilà, souvent, là, ça va réagir, ça va perturber un petit peu plus, notamment le cœur, ça peut empêcher de bien récupérer. Voilà, mais pour ce qui est blessure, je suis quasiment convaincue qu'on peut quasiment toujours récupérer.
D'accord, donc si jamais, par exemple, enfin, parce que moi je pensais par exemple au blocage qu'on disait tout à l'heure, une douleur par exemple récurrente qui revient, enfin qui est là, qui est vraiment très présente dans le corps, mais où il n'y a pas eu forcément une incision, où il n'y a pas forcément une blessure, en fait quelque chose d'intérieur, et donc il devient un point marma, si jamais par exemple il y a une opération dessus, en tout cas vraiment faire confiance au corps et à sa capacité en fait d'homéostasie, comme tu le dis si bien, voir en fait se régénérer, refaire circuler l'énergie.
Finalement, ce qui est important, c'est que ça circule dans le point marma. Et c'est que ça circule d'ailleurs partout dans le corps. Donc, si il y a eu une incision et qu'il y a une cicatrice, mais que tout a été massé, que tout a été travaillé de manière à ce que les tissus soient souples et qu'on maintienne une circulation, qui a eu... Surtout si la personne est assez consciente de son corps, le corps se répare d'autant mieux, il y aura peu de conséquences. En revanche, un point qui n'a pas forcément été incisé d'ailleurs, mais qui est très très contracturé, là, oui, ce point va gêner la circulation de l'énergie et des fluides. Donc ça dépend vraiment de la souplesse. Et pas, voilà, il y a des personnes qui ont des tissus cicatriciels qui peut rester souples.
Mais justement, donc, enfin, c'est ce que tu dis finalement. C'est un peu la connexion au corps aussi, son ressenti, comment on arrive aussi à s'écouter, à apprendre à s'écouter. Toi, c'est quelque chose qui est très important dans ta pratique, hein, puisque depuis que tu es petite, en fait, tu ressens beaucoup de choses. Hein, tu travailles beaucoup avec le ressenti. Tu rends justement l'Ayurveda accessible et intuitif aussi. Hein, tu étais vraiment là-dedans en fait avec cette approche en fait de l'Ayurveda, des points marma. Aussi avec ce que tu ressens, avec aussi tes capacités donc en réflexologie, en kinésiologie. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte en plus en fait ? Comment ça peut te guider en plus en fait d'avoir cette connexion au corps, ce ressenti au corps ?
Je pense que ça fait énormément dans ma pratique, et je le suppose et je l'espère dans la pratique de beaucoup d'autres praticiens d'Ayurveda. En fait, il y a un exemple scientifique qui me permet de comprendre comment ça fonctionne aussi, ce ressenti. On dit que le cerveau, donc ça c'est dans les dernières études, capte à chaque seconde l'équivalent de 16 bits d'information. Donc ça, ça nous dit rien comme ça, ça paraît un langage informatique. Mais pour dire la comparaison, c'est que l'ensemble, l'intégralité de ce qu'on perçoit au niveau inconscient, au niveau du corps, c'est 10 milliards. Donc on est à 16 contre 10 milliards. Donc autant dire que les personnes qui sont sensibles, en fait, ce n'est rien d'autre que des personnes qui vont réussir à capter plus que ces 16 bits d'information. Donc ça va passer par des attitudes du corps, ça va passer par de la vibration, ça va. Il y a de l'information qui s'échange, et du coup, bah, non seulement on gagne un temps fou, et puis c'est très agréable de sentir qu'on rentre vraiment en communication avec l'autre de plein de manières.
Mmh. Oui, et se rendre compte en fait que tout simplement on sait, mais on sait intérieurement en fait que les clés sont déjà là, qu'on n'est pas forcément obligé d'être dans le mental, dans l'analyse et dans la connaissance de tonnes de théories en réalité, hein, aussi pour pouvoir avancer. C'est que en fait cette connaissance, elle est de toute façon déjà là, parce que nous sommes aussi des plus qu'un mental, nous sommes plus que ça en fait. Nous avons cette connexion aussi à l'univers, cette connexion à l'autre, et puis cette anatomie énergétique, ce divin en soi qui nous guide au quotidien.
Oui, et ce que je trouve extraordinaire, c'est que bien qu'on passe par la connaissance livresque, on va dire dans un premier temps, c'est pour d'autant mieux désapprendre ensuite et pouvoir se mettre en lien et en connexion avec tout ça. Quand je pratique, je sais que je suis totalement en lien, et d'ailleurs depuis bien des années, à chaque moment de ma vie, dans tout ce que je fais, avec tous les aspects de mon être, et relié à cet aspect profond, à cet aspect divin. Et du coup, on entre dans un aspect vibratoire et dans une dimension du soin qui est extraordinaire, où on va à la rencontre du coup de ces aspects-là chez l'autre, et il y a quelque chose qui communique et qui communie même pendant le soin. Et j'aurais du mal à le décrire avec des mots, mais c'est quelque chose de merveilleux à ressentir, à expérimenter, et qui a une portée bien, 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 bien au-delà de juste analyser quel point je vais faire, pour quelles raisons, et noter mes petits résultats sur ma feuille. Il y a quelque chose qui va vraiment bien au-delà, quoi. Et dans le soin corporel, je ressens que, et je pense dans des tas d'autres aspects, moi je le vis par le corps, on touche à tous les aspects de l'être et tout est réuni à cet instant-là et ça permet une harmonisation de tous ces aspects-là. Ça permet comme de reconnecter les personnes à leur aspect plus subtil, plus profond.
Exactement.
Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui donne l'apaisement dont on parle immense du mental et des émotions quand on travaille dans des soins profonds comme dans le travail des marmottes.
Non mais c'est très juste, c'est très juste. Et justement en fait, les marmas en fait, quels sont les liens qu'il y aurait avec justement tout ce qui est un peu plus subtil en nous déjà, avec les chakras par exemple, il y a des liens?
Oui, tout à fait. Alors déjà, les marmas étant positionnés sur des carrefours entre les tissus physiques et des nadis, on va avoir une incidence directe sur la circulation de l'énergie via les nadis, du coup dans tout le reste du corps. Mais du coup, les nadis acheminent l'énergie des chakras, de ces petits vortex qui captent le prana, jusqu'au corps physique. Donc, il y a des points marma qui correspondent au point d'entrée de ces chakras dans le corps. Alors, quand on travaille sur la circulation dans un nadi, on va pouvoir aller un peu explorer tout le trajet le long du nadi pour voir si quelque chose est congestionné, si on peut remettre en circulation. Pour le chakra, il n'y aura pas tout un trajet. Il va y avoir en général un point qui va particulièrement travailler sur cet aspect. Et bon, après, détailler tout ce qu'on peut travailler avec un chakra, enfin, c'est sans fin. Tout est possible. On peut travailler un blocage qui est physique par le chakra, comme on peut travailler l'aspect subtil par le chakra, comme on peut travailler l'aspect subtil par le physique, tout communique.
Oui, du coup, en fait, enfin, on peut venir te voir, par exemple, pour un soin, aussi bien parce qu'on a un blocage au niveau du corps que parce qu'il y a quelque chose, en fait, d'émotionnel qu'on voudrait, en fait, fluidifier. On peut se focaliser sur une partie du corps ou on peut, en fait, aussi choisir d'avoir un soin, enfin, général, en fait, pour une réharmonisation globale, sachant que, de toute façon, j'imagine bien que même en travaillant, en fait, sur une problématique, tu travailles un peu sur tout.
Complètement. Complètement. On est toujours dans la recherche de la cause. Mais souvent, il n'y a pas une seule cause, il y en a plusieurs, des causes profondes, et on va voir celles qui sont abordées en priorité. Mais ça va effectivement se passer sur tous les aspects de l'individu. Alors, en général, lors d'une première séance, j'aime rester, et c'est ce que j'enseigne aussi, dans quelque chose d'assez général, parce que ça va permettre, d'une part, de relancer la fameuse homéostasie, et puis de prendre contact avec tous ces points, qui va nous permettre de sentir s'il y a des points qui sont bloqués plus que d'autres, et du coup, d'une fois sur l'autre, de pouvoir préparer la séance suivante. Et ensuite, on va pouvoir rentrer dans la spécialisation. Là, on va choisir vraiment des points qu'on travaille par rapport justement à tout ce qu'on a ressenti, par rapport à la demande de la personne. Et là, ça passe par une anamnèse, ça passe par un questionnaire, par des prises de pouls, des observations de la langue, etc., et puis surtout la demande de la personne, son ressenti, et puis on va synthétiser toutes ces informations pour choisir le travail qu'on va faire. Il n'y a pas une manière de travailler, il n'y a pas une manière de répondre à une situation, à une personne. Je pense que chaque thérapeute aurait établi un angle de travail différent, et c'est ce qui fait que c'est riche aussi.
Ça, c'est sûr. Enfin, l'Ayurveda, de toute façon, ça reste quand même un art de vivre. Et en fait, c'est toujours du 100% sur mesure. Donc, à la fin, on peut avoir aussi des protocoles et puis une certaine méthode. Mais finalement, c'est toujours de l'adaptation. C'est toujours vraiment en fonction de la personne et de ce qu'elle amène avec elle aussi. Hein, et puis de ce qu'on découvre avec elle.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc d'ailleurs, dans l'enseignement qu'on donne au sein de l'école Veda, on en reparlera peut-être tout à l'heure, voilà, j'ai du coup créé une méthode de travail par rapport à ces points marma qui donne un aspect vraiment facilité, intuitif et hyper sécurisé, dans le sens où justement, dans un premier temps, on va apprendre à ressentir, travailler, réharmoniser l'ensemble des points marma en les intégrant dans notre massage de manière assez brève. Ça va un petit peu tout relancer, ça va nous permettre d'affiner notre ressenti. Et puis, on va prendre le temps pour le questionnaire, etc., même dès l'entrée de la séance. Et puis ensuite, on va préparer pour la fois suivante un protocole bien ciblé. Et on va pouvoir, comme ça, d'une fois sur l'autre, préparer un travail. Ce qui fait qu'on a des praticiens en massage qui sont capables, quasiment dès le début, d'utiliser ces points marma de manière totalement sécurisée. Et c'est, voilà, c'est assez confortable pour eux parce que, il y a souvent des élèves qui se mettent une pression énorme en se disant mais voilà, il faut pas rigoler, on touche à des points vitaux, ça pourrait avoir un impact. Donc, enfin voilà, vraiment si on respecte ces quelques consignes d'enseignement, c'est totalement fluide et sans danger.
Mmh. Et puis c'est aussi revenir encore une fois à cette histoire de ressenti, c'est ce que tu dis, et je trouve ça vraiment important parce que je trouve que c'est aussi vraiment ta force, hein. Moi je le vois bien quand tu en parles, et puis par rapport à ce que tu proposes, le ressenti c'est aussi apprendre à se faire confiance, et oui, apprendre à faire confiance, ça donne aussi de la puissance aux soins. Ça donne de la puissance aux soins et à la relation qu'on a aussi avec la personne qui est accompagnée. Ça la sécurise de se sentir aussi nous-mêmes en fait plus en confiance.
Tout à fait. Et ce chemin de confiance en soi et de d'écoute, de reconnaissance de son intuition est un superbe chemin qu'on fait dans la pratique de la thérapie et des médecines douces en général. Je pense pas seulement dans l'Ayurveda. Et ça c'est assez formidable parce que j'entends beaucoup de personnes qui attendent, qui ont envie de faire ce chemin-là, d'être thérapeute, et qui attendent comme d'avoir une réalisation déjà d'eux-mêmes avant de se sentir la légitimité d'intervenir dans ce sens-là. Et alors c'est dommage parce que c'est en faisant le chemin qu'on chemine là-dessus.
Exactement.
Et que du coup, c'est en pratiquant qu'on va petit à petit prendre confiance en nous, apprendre à écouter ça, et pas simplement en restant dans le concept, sinon on risque de ne jamais y arriver, de ne jamais se sentir la légitimité, et on passe vraiment à côté d'un chemin magnifique. C'est vrai que pour la confiance en soi, c'est énorme. Après, il faut s'accorder un petit peu de temps, mais tout de suite, il y a des choses qui se passent, le retour des personnes, ça leur fait tellement de bien que oui, c'est hyper, ça soigne d'être thérapeute. Il faut bien sûr garder une conscience de ce qui se passe en nous à ce moment-là pour ne pas tout mélanger, mais bien sûr que c'est un chemin qui fait beaucoup de bien. Mais je sais que dans le ressenti, que ce soit par rapport au marma ou tout le corps en général, j'arrive nettement à sentir des émotions, des histoires de vie qui sont déposées là. Et on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment on le capte. C'est de la vibration, c'est de l'information et on est au contact de ça, et au plus on le pratique, au plus on est à l'écoute, et au plus, voilà, on peut être surpris. Alors après, on a tous des sensibilités différentes. Certains vont ressentir des informations dans leur corps, d'autres, ça va être par une intuition. Enfin, voilà, c'est multiple.
Mmh. Ouais, non, c'est vrai, là, moi, je peux témoigner aussi qu'en effet, en consultation, des fois, c'est assez impressionnant, hein. Mmh. Les informations qu'on peut avoir, en fait, en contact avec la personne, des fois, c'est presque inexplicable, mais en tout cas, voilà, c'est là, et c'est juste quand ça vient, en tout cas, donc se faire confiance pour ça.
Ouais, ouais, je reviens à cette somme d'informations qu'on perçoit inconsciemment, comme je disais tout à l'heure, 16 pour le mental contre 10 milliards par la totalité de ce qu'on perçoit, et comme tous nos sens et toutes nos capacités, c'est quelque chose qui s'aiguise, qui s'affine. Donc on a ces petits capteurs, ces petites antennes, et toutes les informations sont là, et au plus on se met à l'écoute de ça, et au plus on entend ces informations de manière différente pour chacun, mais c'est vrai que c'est très surprenant.
Ouais, c'est vrai, complètement. Est-ce que justement tu aurais un petit exemple en fait à donner de, justement peut-être aussi pour faire le lien d'ailleurs entre les marmas et les doshas, puisque c'est vrai que le temps passe. Donc, est-ce que tu aurais peut-être un petit exemple pour éclairer un peu ce que tu dis?
Par rapport aux doshas, on a des marmas qui sont situés ou qui sont en lien avec les sites premiers des doshas, les sites d'accumulation. Donc, c'est quasiment toujours dans ces endroits-là, quasiment, que un excès d'un dosha va se manifester en premier lieu. Donc déjà, ça va avoir une incidence là-dessus. Ensuite, moi, je suis persuadée que dans chaque marma, dans chaque cellule, il y a les trois doshas qui interagissent. Donc, de toute façon, on va toujours avoir un effet là-dessus. Il y a ensuite des points qui vont être utilisés pour le diagnostic aussi, aussi bien des doshas que des organes et de la physiologie. Ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir tester ces points quand on sent qu'à cet endroit-là, c'est congestionné, c'est douloureux. Voilà, on sait qu'on va avoir une accumulation de tel ou tel dosha. Ça, c'est très intéressant aussi. Voilà, mais bon, après, c'est difficile d'aborder tous les aspects parce qu'il en faut des jours et des jours. C'est pour ça qu'on a des formations aussi pour parler de ça. C'est sans fin. Je peux donner un petit exemple, moi, donc la théorie et le concept, c'est bien, mais j'aime toujours que les choses soient vécues, soient ressenties et passent par l'expérimentation. Donc, ce que je pourrais proposer, par exemple, c'est de tester sur soi et de ressentir l'effet directement. Ça reste le plus efficace pour comprendre pour moi.
Et justement, est-ce que tu aurais un petit exemple à donner pour nos auditeurs
pour qu'ils puissent tester déjà ? Allez, un ou deux rapidement. Alors, on a Nabi, qui est le marma qui se situe au niveau du nombril. C'est un marma qui est assez large, hein, ça va s'étaler autour du nombril de manière circulaire. C'est vraiment lié au siège de notre agni, de notre feu digestif, et on sait que c'est crucial pour la santé dans l'Ayurveda. On va pouvoir masser ce centre-là de manière circulaire. Si on veut favoriser le transit, on va plutôt dans le sens des aiguilles. Si on veut plutôt le freiner, ça peut être dans le sens inverse, hein, si on est malade à un moment donné. Et on peut utiliser du ghee. Alors le ghee, le fameux beurre clarifié ayurvédique, qui va avoir un effet de régulation. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de risque, on est trop ou pas assez, ça va réguler, ça va appeler à la régulation. Donc ça, on peut l'expérimenter. On peut le pratiquer plutôt le matin, avant d'avoir le ventre plein, c'est mieux. Mais bon, si on est en pleine digestion, qu'on est lourd et que ça passe pas, qu'on fait vraiment une indigestion, on va sentir très doucement. On pourrait utiliser, pour ceux qui le maîtrisent, des huiles essentielles. Ça aura un effet bénéfique de toute façon. Et un autre que je peux proposer d'expérimenter, donc c'est quand même ces deux points marma très très importants, s'appelle Adipati et se trouve sur le sommet du crâne. Si vous cherchez en appuyant dessus directement, vous allez pouvoir sentir un point qui est plus sensible, qui est vraiment sur la ligne haute du crâne. Et ce point, c'est un peu le centre de regroupement de tous les doshas et de toutes les énergies subtiles des doshas, des versions sublimées, que sont prana, tejas et ojas. Alors, je vais pas donner les définitions maintenant, mais voilà, pour ceux qui connaissent. Sinon, de manière générale, il faut comprendre que c'est un point de réglage de toutes les énergies du corps. Ça me fait penser un petit peu dans les box pour l'accès Internet. On nous dit quand il y a un problème d'aller appuyer avec une petite aiguille, je sais pas si ça se fait encore, je suis peut-être pas à la page, dans un petit trou qui va réinitialiser, en fait. C'est un peu pour voilà tout remettre à jour. Ce serait un peu l'équivalent sur nous. Voilà, c'est le petit point pour réinitialiser, pour harmoniser toutes les énergies. Donc celui-ci, on peut le travailler. Souvent, on les travaille avec des huiles, mais on peut le travailler simplement directement avec la main, avec le bout des doigts. Il n'y a pas forcément un sens à respecter. En général, il faut que ça, comment dire, il faut qu'on décongestionne, il faut que ça circule. Donc, on va quand même aller globalement dans toutes les directions. Même si, voilà, ceux qui veulent affiner, on dit qu'en général, quand on travaille un centre dans le sens des aiguilles, on va favoriser la fonction et dans le sens anti-horaire, on va calmer.
Ouais.
Mais bon. Pour un point de réglage comme ça, on n'a pas à simuler ou à calmer. Il vaut mieux faire des pressions douces. Simplement masser un petit peu dans toutes les directions pour apprendre à sentir l'effet que ça nous procure, surtout au niveau énergétique, au niveau du ressenti subtil.
Mais surtout s'écouter, en fait, finalement aussi.
Tout à fait.
Encore une fois. Et justement, si jamais on veut apprendre tout ça, toi, tu enseignes, en fait, tu as mis en place, en fait, une école à Toulon, l'école Veda. Est-ce que tu peux nous en parler justement pour terminer cette émission, nous parler un peu de ce que tu proposes, de comment tu travailles, comment tu formes en fait justement.
Alors l'école Veda, c'est une école qui est assez jeune, même si nous on enseigne tous depuis assez longtemps. On est 5 intervenants. Il y a un cursus global de praticiens Ayurveda qui comprend 2 sous-cursus. On peut effectuer seulement l'un ou seulement l'autre. Il y a un cursus de consultant en Ayurveda. Donc là, ça comprend la médecine ayurvédique, la nutrition et des bases en physiologie et pathologie. Ensuite, il y a des spécialisations autour, j'en reparlerai après. Et puis, il y a un cursus de praticien en massage ayurvédique, donc c'est là que j'enseigne, qui va avoir un parcours qui va de la bianga à des techniques spécifiques comme le shirodhara ou le polponsu. On a aussi une ostéopathe qui intervient pour un module d'anatomie palpatoire, ce qui nous permet d'être vraiment sécurisés dans toutes nos mobilisations. Et ensuite, on a des spécialisations que sont l'ayur-yoga, donc les pratiques de yoga pour réguler la santé, l'énergie des doshas et des sous-doshas. On a l'ayur-jyotish, qui est une spécialité vraiment très, très intéressante, qui est un petit peu le thème astral-védique, le thème de naissance, appliqué ici dans le domaine de la santé. Donc, on va étudier, en fait, les coordonnées de naissance d'une personne pour voir si une pathologie est quelque chose qui s'inscrit sur toute la durée de sa vie, si c'est quelque chose de ponctuel. Et puis, on va voir, du coup, déjà, rien par rapport à ça, on ne va pas du tout l'aborder de la même façon. Et puis, on va pouvoir ensuite voir quel est le meilleur moyen de traiter cette problématique. Est-ce qu'on va entrer par l'aspect très physique, par la nutrition? Est-ce qu'on va entrer par l'aspect subtil, par l'énergétique? Voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Une option cuisine et une option pour la phytothérapie et les remèdes subtils, comme les mantras, les couleurs. Voilà, donc ça, ce sont des options qu'on a décidé récemment de proposer séparément pour avoir le temps de beaucoup plus l'approfondir, puisque le cursus de base est déjà très, très riche et très dense. Voilà, donc on peut choisir de faire l'intégralité de cette formation, de faire l'un ou l'autre des cursus, ou encore on peut choisir des modules à la carte. On a des personnes qui sont venues pour s'inscrire uniquement au module de nutrition, pour venir apprendre une technique spécifique de massage pour compléter, entre guillemets, leur boîte à outils, on va dire. Donc voilà, tout ça c'est possible. Donc on a un site internet, c'est ecoleveda.com, et puis les coordonnées ensuite, le contact, ça passe par moi. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger pour comprendre ce qui est le plus approprié pour chacun, voilà, dans son cursus. Et puis on peut faire l'intégralité, mais on peut aussi se former petit à petit et venir piocher au fur et à mesure les outils dont on aura besoin.
En tout cas, mes chers auditeurs, vous pouvez en effet contacter Sandra pour des soins et puis surtout aller découvrir l'école Veda, donc sur le site ecoleveda.com. Vous avez de toute façon toutes les informations sur Sandra, sur l'école Veda et sur toutes ses activités en description de l'émission, comme toujours. Donc n'hésitez pas surtout à la solliciter, à la contacter et à vous y intéresser. Moi, j'ai très très envie en tout cas d'approfondir ce sujet des points marma. Je trouve ça fascinant. Il y a énormément de choses en fait dont on aurait encore pu parler, mais enfin... choisir, c'est renoncer. Donc, je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour votre attention et pour l'intérêt que vous avez pour cette émission. Eh bien, en tout cas, Sandra, du coup, pour terminer, je souhaiterais beaucoup, déjà te remercier, en fait, pour les exemples que tu nous as donnés, pour toutes ces explications qui donnent vraiment un véritable éclairage sur les points marma qui sont quand même assez peu connus en France.
Hein. C'était avec grand, grand plaisir.
Et puis, vraiment au plaisir d'ailleurs, vraiment d'approfondir, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, je pense, plein de choses à découvrir. Merci pour tout ça, et puis merci aussi pour ce que tu proposes, puisque tu permets aussi de rendre tout ça accessible, et puis de redonner aussi, encore une fois, la puissance et la confiance aux personnes qui pratiquent. Et ça, c'est une approche aussi qui est quand même très importante et qui est très ayurvédique.
Tout à fait. Merci beaucoup.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, mes chers auditeurs, pour votre attention. Donc, n'hésitez pas à contacter Sandra. Si vous souhaitez approfondir l'Ayurveda, vous pouvez bien évidemment prendre rendez-vous avec moi, découvrir mon livre, l'Ayurveda sourire quand la joie du cœur et la santé du corps aux éditions Marie-Claire, et me suivre sur mon site et sur les réseaux sous Mihira Ayurveda, M-I-H-I-R-A, Ayurveda, et tout est dans la description de l'émission. Encore merci Sandra pour cet échange.
Et avec plaisir.
Merci beaucoup mes pépites pour votre attention. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous envoie comme toujours une myriade de sourires et surtout, souvenez-vous que la joie du cœur est la santé du corps. À très bientôt.
L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaël Bhattar, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.